Bah, du coup, est-ce que vous pouvez commencer par raconter un peu votre parcours professionnel?
Alors, moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille à la RTBF, donc une carrière assez linéaire dans chez le même employeur et en même temps très diversifiée, puisque j'ai commencé à la RTBF Mons en 1991 et je me suis occupée d'actualité régionale. Je suis arrivée à Bruxelles à l'occasion de la mort du roi Baudouin en 1993. Je me suis occupée d'informations de type société, mais belge également, parce que les deux étaient mélangés dans la même équipe à l'époque. Au JT alors, on n'était pas encore en parcours 360 où tout le monde était sur le même plateau, on était dans une rédaction séparée. Et puis je suis devenue, il y a plus de 10 ans, maintenant 12 ans je crois, je sais plus, responsable rédactrice en chef politique. Et enfin, il y a eu un épisode de transformation de la RTBF où je suis devenue manager Info 360, poste qui a entre-temps disparu, car l'RTBF a fait une nouvelle transformation de son organisation. Et c'est à ce moment-là que je me suis, j'ai postulé pour le poste de responsable éditorial sciences, santé, innovation, environnement, que j'occupe depuis 2 ans.
D'accord. Et du coup, pourquoi passer de la politique à tout ce qui était scientifique?
En fait, la politique, c'était derrière moi, parce que j'avais eu un mandat de 6 ans plus 3 ans, et j'arrivais au bout du parcours. Après, j'étais passée par cette transformation en me disant « je vais relever un nouveau défi ». Et puis, donc je n'allais pas revenir à la politique, sachant qu'une nouvelle génération était déjà là aussi pour s'en occuper. Et puis, ça m'a fait un break aussi agréable de découvrir de nouvelles matières, parce que moi, je n'ai pas de formation scientifique à la base, mais j'adore apprendre et j'ai peut-être la prétention de penser que j'arrive à le faire relativement vite. On arrivait dans le Covid, donc il fallait aussi une personne un peu pour coordonner toute cette information-là. Donc c'était un secteur chaud et un secteur d'avenir aussi. En fait, les 3 domaines, les 4 domaines, environnement, innovation, donc là, il y a le climat, il y a l'ère des pandémies. Ça me semble plus palpitant aujourd'hui que la politique par rapport à laquelle j'étais un peu en mode répétitif.
Et est-ce que c'est un atout de ne pas avoir de formation scientifique, dans le sens où ça permet de plus vulgariser, de se mettre à la portée de tout le monde?
C'est un atout et en même temps non, dans le sens où parfois il y a des basiques qu'il faut revoir ou comprendre. Et puis dans la lecture d'articles scientifiques, il y a des choses qu'il faut acquérir. En même temps, l'atout c'est... un, qu'on a une extrême humilité et donc on ne se lance pas tête baissée dans des choses qu'on n'est pas sûr de maîtriser. Et ensuite, une capacité de vulgarisation, mais ça, je pense, qui est plus lié au métier de journaliste. À partir du moment où vous savez raconter une histoire, qu'elle soit politique, internationale ou scientifique, avec la rigueur évidemment nécessaire, en particulier dans le scientifique, en soi... Le fait de ne pas être un spécialiste utilisant du jargon aide, mais c'est plus une capacité de vulgarisation propre au métier.
Et quelles sont vos motivations au quotidien dans votre métier de journaliste?
Ce qui me motive, c'est la curiosité et j'ai encore aussi l'excitation de la nouveauté. Quand quelque chose se passe, la détection de nouveaux sujets, c'est peut-être curieux à dire, mais... quand il y a eu les tout premiers cas de variole du singe et que j'ai vu en Angleterre, au Royaume-Uni, que ça commençait là-bas, j'avais une forme d'excitation et de curiosité. Même si c'est une actualité qui, pour ceux qui l'attrapent, est vraiment très, 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 très négative. Mais d'un point de vue informationnel, c'est « Ah, c'est quoi? D'où ça vient? C'était endémique où? Pourquoi ces cas? Les modes de transmission, les remèdes, et ainsi de suite. » Donc, on ouvre plein de boîtes. Et puis, on voit que ce qu'on a détecté avant les autres, ici à la rédaction en tout cas, mais même avant la... Je crois que les médias francophones n'en avaient pratiquement pas encore parlé quand on a commencé à en parler. On voit que ça monte, on dit « Ah tiens oui, ça valait la peine », parce que là on est face à quelque chose qui prend de l'ampleur. Et donc il y a cette curiosité, cette envie de comprendre, cette envie de partager, et également le goût de l'actu encore aussi.
Voilà. D'accord.
À un certain moment, dans ma fonction de manager, je me suis demandé, surtout quand cette fonction-là était finie, j'étais dans une espèce de vide professionnel, est-ce que j'aime encore mon métier? Est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'ai encore ma fibre? Et le fait d'être revenu dans le contenu, quand je suis dans le contenu, je me dis, ah oui, c'est ça que j'aime. Voilà.
Pas de refondamentaux, quoi.
Le métier, quoi. Ouais, le métier. Ouais.
D'accord.
C'est pas pour autant que j'aime pas la gestion d'équipe et tout ça, mais faire que ça, c'est pas la même gratification, satisfaction personnelle.
Bah, c'est pas pour ça qu'on. C'est
pas pour ça qu'on a choisi,
on a
le
choisi
métier.
De faire du journalisme, ouais. C'est sûr. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ?
Alors, je suis sur Twitter sous mon nom, je suis sur LinkedIn sous mon nom, je suis sur Facebook avec un pseudo qui est celui d'un de mes animaux de compagnie.
Donc c'est purement privé celui-là ?
C'est privé, il y a quelques personnes du boulot qui sont plus proches à qui j'ai donné mon nom. Parfois je l'utilise en disant qui est derrière le pseudo, vraiment quand je n'ai que Facebook pour avoir un contact avec une personne. Mais je le laisse bien, bien, bien privé parce que j'ai pas du tout envie de vivre sur Facebook la même chose que ce que j'ai sur Twitter.
Ouais. Voilà. Bah justement, venons-en directement.
Ah, je suis sur Instagram aussi, ah, oui. Mais là c'est mon pseudo aussi.
Ouais.
Et TikTok, je crois que j'y suis sous mon nom, je pense. Mais ça dépend si j'ai créé le profil avec mon profil Facebook, alors évidemment il va.
Ah oui, forcément, oui.
Je crois que c'est tout.
D'accord. Et donc, c'est quoi l'usage que vous faites de ces différents réseaux, du coup ?
Alors, je vais commencer par celui que j'utilise le plus. Twitter, c'est de la veille. Donc, avec un réseau de scientifiques que je suis et qui me permettent de détecter des nouvelles informations de scientifiques ou de journalistes scientifiques. C'est aussi de la recherche de témoignages. Même si c'est pas la part la plus agréable du truc, parce que quand vous cherchez un témoin qui a fait ci, qui a fait ça, et que vous balancez ça à 45 000 personnes, ça leur plaît pas nécessairement usage utilitaire pour trouver un témoin, mais en même temps ça peut être utile.
Ça fonctionne bien ?
Ça fonctionne parfois, ouais, ça a déjà fonctionné, mais pas toujours. La recherche de contact pour des interviews, donc par exemple je vais voir une nouvelle étude, elle a été faite en Nouvelle-Zélande. Par exemple, je vais voir le premier auteur, je vais regarder si le premier auteur est sur Twitter, je vais le contacter, je vais lui le suivre, je vais lui demander de me suivre, je vais lui mettre un message direct, je vais lui dire est-ce qu'on peut convenir d'une interview, et grâce à Teams, Zoom et compagnie, peut-être que 2 heures après, je l'ai en interview. Et ça, c'est génial, parce que ça me permet d'avoir la personne à la source, et pas juste de reprendre des éléments, de les interpréter... Ça, c'est cool, j'ai eu ça une fois avec. J'avais fait une chronique, j'avais vu une étude sur une équipe qui avait réussi à faire communiquer une personne qui était enfermée complètement dans son corps, le locked-in syndrome. Et là, j'ai trouvé le premier auteur de l'article, qui était un Allemand d'origine indienne. Et je crois le lendemain, on a fait un Zoom où il était à New Delhi dans sa famille et il me racontait le truc. Du patient en Allemagne, enfin c'était super chouette quoi. Donc là, je dirais il y a peut-être 10% de l'usage des cas d'usage de Twitter où j'ai ça. 90% d'emmerde, peut-être.
Ouais.
Mais je ne pourrais avoir ces 10% que comme ça, parce que par un mail ce serait pas aussi rapide ou ouais. Donc faut le garder quoi. Tant que.
J'imagine que c'est plutôt pour les personnes à l'étranger, parce que sur Twitter, il y a assez peu de Belges, finalement.
Oui, c'est plus pour des personnes à l'étranger, alors que ce soit dans les domaines médicaux, spatiaux, environnementaux, ben, on peut suivre voilà, des gens de tous les pays, et ça sert, on peut voir aussi qu'est-ce qui se partage, qu'est-ce qui se valide, faire des espèces de constellations comme ça d'éléments... Qui sont vérifiés, qui sont multisourcés. C'est chouette.
La seconde, vous l'avez créé il y a combien de temps ? C'était pour la partie justement scientifique ou c'était bien avant ?
J'ai créé quand j'étais en politique. À ce moment-là, j'avais une timeline très politique. Il y avait des réactions parfois, mais c'était pas virulent sur. Il n'y avait pas des trucs aussi hard qu'il y a eu pendant la pandémie de Covid et avec les antivax et les théories du complot. C'était parfois des positionnements où des gens nous reprochaient d'avoir l'air plus ceci, plus méchant avec un tel qu'avec un tel, ou qu'on m'aimait ou qu'on ne m'aimait pas, que j'avais l'air de me prendre pour ceci ou pour cela, mais voilà, c'était pas plus que ça, quoi.
Et est-ce qu'il y a aussi une volonté de faire la promotion peut-être des articles que vous produisez, ou c'est uniquement vraiment pour aller chercher l'info ?
Non, il y a cet usage-là aussi, c'est le partage. Le partage des articles, en particulier sur les thématiques que je couvre, pas nécessairement si c'est moi qui les écris. Ça, les gens ne regardent même pas. Par exemple, ils vont voir un article sur... disons que ce serait lié au Covid. Ce ne serait pas moi qui l'ai écrit, mais je le partage. Bah, c'est moi qui me ramasse toute la salve d'insultes, surtout venant du côté français, de gens qui naviguent dans ces groupuscules-là. Ils n'ont même pas ouvert, ils n'ont même pas regardé qui a écrit. Et donc voilà, ils disent « vous racontez de la merde, je partage ». Je partage, donc bien sûr j'endosse aussi, mais ils ne vont même pas voir. Donc, et aussi parfois le partage de production que je trouve chouette. Chez nous, ou parfois le partage de messages ou de tweets de l'un ou l'autre, ou des likes, mais les likes, je fais attention à ce que je like. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit. Pour moi, liker, c'est pas innocent, quoi. C'est quelque chose qui positionne quand même.
Et en tant que journaliste, soyez vraiment très prudent par rapport à ça.
Hyper prudent. Hyper prudent, ouais.
Bon, allez.
Ouais. Surtout, déjà, quand c'est un politique qui s'exprime, je ne like jamais. Jamais. Mais parfois, vous avez des politiques qui s'expriment sur des sujets médicaux. Je prends par exemple Catherine Fong qui dit des choses assez sensées sur le Covid. Je crois pas que j'ai jamais liké ce qu'elle a dit. Ou alors, si c'était vraiment une espèce de... Voilà, de positionnement médical, quoi. Parce qu'elle est médecin, par ailleurs. Oui, il faut faire attention.
Mais donc, il y a quand même une prise de position, d'une certaine façon. C'est pas une neutralité totale, quoi.
De moi ?
Oui.
Neutralité totale, ça voudrait dire que jamais je ne me situe dans un champ purement scientifique. Et que je fais... je sais pas moi, révisionniste, rationaliste, un partout quoi. Mais non, c'est pas un partout. Je suis pas à équidistance. Je me situe du côté de la rationalité et de la science. Voilà, ça c'est. Je peux pas dire, on va faire un débat entre Martin Zizi et Marie Gilbert quoi. Non, non, on va pas débattre.
Ouais. Et mais du coup, ça se manifeste comment les cas de harcèlement, on va dire ? Ça arrive souvent ? Est-ce que c'est uniquement lié au Covid ?
Bah, ça a été vraiment lié ici au Covid. Bon, d'abord, il y a eu un afflux de gens dans la mouvance française anti-vax qui me sont aussi tombés dessus par des intermédiaires belges. Bon, d'abord, on a eu toute une campagne de mails de certains groupements qui visaient les journalistes en particulier, qui disaient, qui nous rappelaient les devoirs de la Charte de Munich, et c'était le même mail qui arrivait à tout le monde. Après, il y a eu l'un ou l'autre tweet qui disait, avec la photo de ce journaliste collaborateur qui avait collaboré avec les nazis et au procès de Nuremberg, et sa photo, il y était mis, le journaliste Trucmuche, je ne sais plus qui, a été pendu à la Libération pour avoir collaboré avec les nazis. Et c'était le message qu'on nous envoyait, qu'on m'envoyait. Sous-entendu, ouais.
Point Godwin, quoi.
À ton tour, bientôt. Ou bien alors, vous serez jugé. Et bon, après, j'ai installé l'application truc Bodyguard. Je ne sais pas si vous connaissez Bodyguard. Bodyguard, c'est une application qui... est une intelligence artificielle en fait qui filtre et retient les messages haineux. Et donc, par exemple, là, elle va effacer et retenir tous ceux qui, voilà, pourquoi relayer de la mer comme ça, vous en avez pas marre. Ici, j'en ai parlé, parce que ma séquence jeudi, c'est l'œil scientifique. J'en ai parlé dans votre ignorance scientifique. Alors, arrêtez avec votre journalisme de caniveau. C'est minable.
Et ça a l'air assez efficace.
Oui, ouais, c'est assez efficace. Mais alors, quand elle oublie un commentaire, bon, ça, par exemple, c'est considéré comme neutre. Un trot de psychose sur la psychose. Moi, je ne vais pas le mettre en supprimé parce qu'il n'y a pas d'insulte là-dedans. Ok, le narratif de la variable pour un flop, c'est... Alors, ah, tiens, voilà. Tiens, c'est qui, c'est... Ah non. À l'RTBF, on ne comprend pas que le discours des laboratoires. On ne comprend que le discours des laboratoires. Toujours pas de question après l'inutilité du vaccin Covid. C'est pas insultant.
Non, bon, c'est pas insultant.
Voilà, c'est pas insultant. Ça, c'est de la désinformation. Donc, ce qui est vendu comme variole du singe est en fait, entre de nombreux cas, un zonal, un des effets secondaires connus de la vaccination.
Charlatanisme, bon, un peu à la limite de l'insulte.
Charlatan mentait. Je vais quand même le...
Le signaler.
Donc là, je vais faire ça. Je vais faire le supprimer. Allez. Voilà. Il va aller le mettre dans la pile. Et il apprend. C'est ça, il apprend, en fait. Alors, il y a ceux qui n'ont toujours pas compris qu'être journaliste, c'est pas être médecin, mais on peut être journaliste. Je ne savais pas que l'RTBF formait des virologues. C'est une corrompue qui le dit. Ben voilà, ça c'est insultant. Mmh. Et celui-là, il revient souvent sur Gruber. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en stock? La papesse de la désinformation a encore manqué une occasion de se taire. Toujours le même. Je le connais, celui-là. Il a déjà été signalé, il fait l'objet d'une plainte.
Mmh.
Voilà.
Et vous ne l'avez pas bloqué ?
Je ne bloque pas. Je ne bloque pas, mais je masque. Mmh. Je ne bloque
pas
parce que...
Ils ne savent pas qu'ils ont été bloqués, donc ils ne peuvent pas afficher sur leur réseau « Regardez, j'ai été bloqué. »
Le trophée, ouais. Ouais. Regardez, elle est tellement fermée qu'elle me bloque. Donc, voilà, je fais ça, quoi. Voilà, donc là, vous avez quelques florilèges de l'histoire. Alors, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, il y a un gars qui avait mis que ça commençait, donc j'avais partagé un article, et puis, mais vous ne comprenez pas que ça commence à devenir dangereux. Donc, on commence à se trouver, nous, disait-il, dans une situation de légitime défense, et ça commence à devenir dangereux pour vous. Voilà. Mm-hmm. Donc là, j'ai déposé plainte à la police.
C'est carrément une menace. Hein.
Ouais, c'était une menace. Puis voilà, il y a eu aussi Martin Zizi là qui est un scientifique à la dérive, on va dire, qui lui il me harcèle. Mais maintenant Twitter a suspendu son compte, c'est tout frais, hier.
Ah oui.
Et lui c'était, il fallait me mettre hors d'état de nuire. Et il encourageait les gens à taguer les journalistes, de la RTBF en particulier. Ouais. Oh, c'est assez dingue quand même, toute cette haine. Mais bon, moi, c'est encore rien par rapport à des gens comme Mark Panranst qui sont vraiment menacés de mort. Mais maintenant, je me demande si je ne vais pas commencer à bloquer. Parce que c'est franchement fatigant. Mmh. Je crois que la démarche, c'est de se dire je bloque ou je bloque pas. Le symbole que c'est de bloquer. Mais l'insulte est une bonne raison de bloquer. Le problème, si on commence à bloquer, c'est que où se trouve la frontière entre des gens qui disent « Ouais, c'est un zona, c'est pas si... » Ok, il dit des conneries, mais il m'agresse pas, mm-hmm. en soi. Il désinforme, mais il m'agresse pas. Est-ce que je dois bloquer tous les gens alors qu'il désinforme à partir pour la gloire?
Ouais. Et du coup, ce flot, il continue, même malgré le fait que la pandémie soit un peu
derrière. Oui, parce que là, c'était sur la variole du singe. Et ça a recommencé hier.
Et c'est toujours les mêmes.
Mais souvent. Donc variole, alors hier, parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été filtrés et qui ont été mis dans mes messages. Alors, bon, ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Alors, non, ça c'est parce que je partage un truc un peu positif, ça change. Attends. Il y avait... Ça c'est Jean-Michel Daunier qui a mis « J'invite chacun à bloquer les comptes qui diffusent des messages d'insultes, de haine ou de menaces que nous ne confondons pas avec les personnes qui se posent juste questions. » Donc il a mis ça suite au suicide de cette médecin autrichienne. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Je ne sais pas si j'ai vu passer.
Donc cette médecin autrichienne-là, elle s'est suicidée dans son cabinet. Parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était menacée de mort par des antivax, et elle avait dû assurer elle-même sa propre sécurité en payant des agents, etc. Et donc Daunier, qui est directeur du service pharmacie de l'Université de Namur, expert à l'OMS et à l'Agence européenne des médicaments, donc voilà, et là il nous a tagué en disant qu'il nous invitait à bloquer ces comptes qui diffusent des messages de haine. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il y a eu hier avec le monkeypox, ça c'est rien. Bon, là, il pense que je ne connais rien, mais ça c'est pas grave. Ah ouais, c'était ça, c'était un qui avait mis. Ah oui, mais je l'ai masqué, voilà. Donc je partage ça, hein, qui est le point de vue de Jean-Christophe Goffard, professeur à Erasmus, sur les doses de vaccins contre la variole du singe. Le mec me répond. Quelles sont les populations à risque? Spoil, je n'en fais pas partie, sinon sans être anti-vax, s'il y avait un vaccin contre le sida, je ne demanderais pas d'être injecté. Ok.
Oui, d'accord.
Et celui-là répond vivement un vaccin anti-propagande. Il y en a qui répondent, hein, et un vaccin contre la connerie. Donc voilà, moi, depuis. Ceux-là, je les masque. Il n'y a pas.
Ouais.
Je ne sais plus s'il y a encore d'autres trucs. C'est fatigant.
Ça vous prend beaucoup de temps tous les jours de filtrer tous ces commentaires?
Ça me prend beaucoup de temps de... parce que je ne fais pas que filtrer, Bodyguard fait son petit travail.
Oui.
Je vais juste voir de temps en temps qu'est-ce qu'il a retenu, ce qui me donne une vision de l'efficacité du filtre, de ce qui tombe encore et que je ne vois pas, et d'apprendre à la machine. D'autres insultes ou d'autres combinaisons. Mais Twitter, ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai toujours ce petit bruit de fond un peu en permanence entre la veille et le...
Oui. Oui.
C'est souvent mon activité parallèle en même temps qu'autre chose.
Mmh. Ouais.
Le jour où je ne suis plus journaliste, je quitte le réseau. Du jour au lendemain.
Forcément, vu que c'est un réseau purement professionnel, un compte purement professionnel.
Voilà. Là, j'ai 46 937 abonnés. Et
ce qui est plutôt pas mal.
Ça va, ça va. Ça va. Mais je me barre, quoi. Mais là, je peux pas.
Ouais. Et du coup, psychologiquement, ça a été pas évident.
En fait, c'est très pervers parce qu'on a l'impression qu'on s'en fout. Mais ça mine à petit bruit comme ça. Comme quelque chose de sournois qui fatigue. Et on ne peut pas trop l'attribuer à ça. On se sent un peu. C'est tout le temps de la dévalorisation de l'insulte en disant vous êtes une merde, mais surtout vous êtes nul, vous ne savez pas faire votre métier, vous êtes corrompu. Donc chaque fois des retours d'images négatives. À côté de ça, il y a des gens qui vous font des retours positifs. Mais dans la balance, le nombre et le flow n'est pas le même. Et, la, et c'est comme une petite, un petit nuage dans la tête qu'on ne voit pas, mais qui quand même est là. Et c'est pour ça que le jour où je suis passée à l'action en me disant maintenant je vais à la police avec ce type qui disait que c'était de la légitime défense, je me dis non, ça, c'est pas possible quand même. Je dis, ça m'a fait du bien. D'entrer dans une démarche où on arrête de subir et on dit il y a des limites.
Mmh.
Et puis avec la RTBF, on a attaqué Twitter. Bon, là, malheureusement, on n'a pas gagné parce que c'était sur la question de les obliger à lever l'anonymat des comptes. Et c'était une question de...
Question très sensible pour les GAFAM.
Oui, et alors aussi, là, il y avait une question de compétence de juridiction. Puisque société étrangère, le jugement est intéressant parce que Ils disent qu'il y a un vide législatif actuellement en Belgique, et donc quelque part ils invitent le législateur à pallier ça, quoi.
Ouais.
Voilà.
Mais du coup, il y a eu des remises en question de sa légitimité de journaliste ou...
Ah, moi ?
Ouais.
Mais moi, je suis quelqu'un qui m'en remet tout le temps ma légitimité en question depuis... C'est un peu ma... ma faille personnelle.
Syndrome de l'imposteur.
Ah oui, mais beaucoup de femmes, hein, beaucoup de collègues. Et ce sont souvent des personnes qui sont plutôt perfectionnistes et qui sont rarement, rarement finalement prises en défaut, mais qui vivent toute leur vie avec la peur de l'être. Et du coup, elles sont 50 fois plus vigilantes. Donc... la remise en question de ma légitimité, comme moi je me considère, j'ai l'impression que ma légitimité, elle est à chaque seconde, je dois la mériter.
Ouais.
Donc dans chaque acte que je pose, au temps zéro, cette légitimité, elle doit être prouvée. En tout cas, elle doit être, elle ne doit pas être remise en question par quelque chose que je ferais mal. Donc c'est comme si, donc il y a, vous imaginez un évier. On n'a pas mis le bouchon. Et normalement, bah, tout ce qu'on fait dans sa carrière, ça fait une sorte de... Ouais, ça se remplit, quoi. Ça se remplit. Bon, moi, c'est pas comme si on n'avait pas mis le bouchon du tout. Au début, c'est un peu... au début de la carrière, les... on fait, mais on ne thésaurise pas, on capitalise pas sur notre confiance. Et donc, moi, le bouchon, il est mis, mais il y a... c'est comme s'il y avait une petite fuite et que... ça ne capitalise pas autant en confiance que ça ne se remplit. Même à 53 ans, hein, j'ai une toute jeune collègue l'autre jour qui était vraiment émotionnellement un peu effondrée parce qu'elle avait l'impression d'avoir eu l'air stupide, elle ne se sentait pas légitime, etc. etc. J'ai regardé, j'ai dit, et 53 ans à chaque seconde encore, donc c'est pas lié. Enfin, bien sûr, on prend de la confiance quand même sur... On sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on est capable de faire. On sait, voilà, par exemple, moi je sais quelle est ma capacité d'adaptation, quelle est ma capacité de travail, quelle est ma capacité de compréhension. Je sais que là j'ai des atouts, de rapidité, de vite comprendre et vite bien cerner les enjeux. Mais après, il y a des moments où c'est encore l'idée de se prouver des choses. Donc quand quelqu'un vient dire « t'es pas légitime, t'es qu'une merde », etc., c'est sûr que ça peut appuyer sur quelque chose qu'on a tous plus ou moins un peu ou pas du tout en nous, selon notre histoire, notre éducation, notre personnalité. Et il faut bien se dire que c'est ces gens-là ne sont pas des observateurs avertis. Donc, si quelqu'un de compétent me disait ah, « Écoute, là, Joanne, vraiment, ton travail, je serais très touchée. » Et comme ce sont des personnes qui ne sont vraiment pas au courant, ne connaissent rien et que c'est que de l'agressivité, je trouve ça plutôt triste d'avoir une telle désaffection pour les médias mainstream et une telle haine envers les médias traditionnels. Ça m'afflige par rapport au métier, mais je ne le prends pas personnellement. Parce que je sais qu'ils ont perdu confiance dans les médias, dans la politique, dans la science, dans la démocratie, et que la crise est bien plus large. C'est pas Joanne Montet, on s'en fout.
Oui.
Voilà. Il se trouve que c'est sur moi que ça tombe. Mais c'est pas moi qui suis remise en question par eux.
Donc, vous pensez que le fait d'être une femme, ça a joué dans le fait d'être harcelée ou pas ? Pas spécialement.
Je me pose la question. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été aussi harcelés. Moi, j'ai eu quand même des petits attributs parfois qui étaient typiquement féminins, pute de la propagande, mais va te faire comme ça, avec un doigt.
Ouais.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu aussi une fois ? Ouais, retourne dans ta cuisine. S'il savait comment je fais la cuisine, il m'y enverrait pas. Non, c'est sûr.
Oui.
Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas le quantifier, ça. Je sais pas le quantifier. Bah, Voilà, moi j'avais fait il y a quelques années un master de spécialisation en études de genre, parce que j'avais envie de réétudier un peu. Et c'est vrai que de ce que j'en ai appris et retenu aussi, bien sûr, nous les femmes, on n'est pas dans une position. On est dans. Je sais pas comment le dire. Il y a encore beaucoup de boulot, quoi, pour que ce soit vraiment une égalité. Et qu'on ne soit pas une cible plus attractive pour les gens qui ont envie de balancer de la merde. Mais je n'ai pas, comme j'aime bien les choses scientifiques et vérifiées, et que je ne sais pas si j'ai eu plus ça parce que je suis une femme, je ne vais pas pouvoir l'étayer.
Oui, forcément. Mais bon, d'un point de vue plus de votre interprétation, c'est quoi pour vous les causes de cette réaction épidermique par rapport aux journalistes?
Eh bien, je la situe sur un plan plus large que le journalisme. Je pense qu'il y a. On est vraiment dans une sale période qui, moi, me fait penser un peu aux années 30, où il y a une forme d'assimilation et un discours populiste de défiance vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme les élites. Dans les élites, entre guillemets, on va mettre en vrac toute une série de gens qui seraient corrompus les uns par rapport aux autres, avec le politique, l'industrie pharma, les journalistes seraient corrompus et payés par le pharma, ou en tout cas qu'on répercuterait uniquement le discours. Qu'on aurait perdu tout esprit critique, et là-dedans aussi, oui, je sais pas, on peut y mettre la science, au sens de la science qui valide par l'étude clinique qui est dans les règles de l'art. Et du coup, les ozos alternatifs qui proposent des remèdes, soit auxquels on a cru un temps et qui finalement ne vont pas, soit qui sont tout à fait fantaisistes, apparaissent comme « Ah tiens, bah celui-là il a trouvé quelque chose et il faut aller s'informer ailleurs ». L'idée que la vérité serait ailleurs, qu'elle serait en dehors de ce système, et qu'il faudrait toujours aller la chercher, alors qu'en fait, c'est faux. Et ils imaginent que ce monde-là est un monde de moutons, hein, et que le monde externe serait un monde éclairé. Alors que c'est exactement l'inverse. Ils sont moutons parce qu'ils suivent des gourous ou des gens qui racontent des conneries, et finalement, ce sont leurs nouvelles élites. Mais incompétentes et ils suivent ça en disant là c'est la vérité, qu'une espèce de prisme comme ça de biais de perception de la réalité. Alors d'où ça vient, je sais pas, moi je suis pas psy, mais il y a des psys qui expliquent que ça les rassure d'un point de vue dans des périodes très très compliquées où il y a beaucoup d'anxiété, et que le fait de se dire bah, tiens, on a trouvé, il y a une raison, il y a un truc derrière, bah, ça provoque des apaisements. Des psys qui disent que c'est aussi une forme de valorisation narcissique, de moi j'ai trouvé par ma propre source alors que les autres sont des moutons. Et puis il y a peut-être le contexte socio-économique aussi, mais c'est assez étrange, parce qu'à un moment j'avais regardé, il y avait une phrase de quelqu'un qui disait tout, oui, vous êtes des moutons. Je me dis, mais tiens, c'est quand même bizarre. Oui, les merdias aussi, les mots forgés. Je suis retombée sur un discours que De Grelle avait fait dans les années 30, collaborateur, le chef du mouvement marxiste. Et alors il parlait des moutons. Et il disait, tous les moutons qui votent pour les politiques qui sont corrompus par les banksters. Et donc lui, il avait fait un mot forgé entre banquier et gangster. Et c'était tellement parallèle. Donc, il va falloir faire quelque chose avec les générations qui viennent pour restaurer une confiance dans la démocratie, Donc voilà, une éducation à la science, une éducation aux médias, une éducation et peut-être quelque chose de changé aussi dans le mode démocratique et participatif, je ne sais pas. J'ai pas la recette, mais je crois qu'on est vraiment dans une crise de société.
Alors, la question peut paraître un peu bête, mais est-ce que vous avez déjà été harcelé sur LinkedIn?
Sur LinkedIn, il y en a un qui me cassait les pieds. Ouais, et celui-là, il me partageait. Alors, je lui ai dit que c'était un réseau professionnel à la fin et que je j'aimerais bien que ça en reste là. Parce qu'il m'a envoyé ça en message privé et ça commençait à me gaver un peu. Mais je ne sais pas si je vais le retrouver. Alors, je ne suis pas sûre que je vais le retrouver. C'était en mars, quoi.
Mais c'était de quelle nature?
Bah, c'était un discours pro ivermectine et autres, qu'il y a des remèdes, qu'on les utilise pas, et toute de la littérature parallèle qui m'envoyait tout le temps. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et sa tête, je vais pas le retrouver, je crois.
Attends, il s'appelle...
Je suis pas sûre de le retrouver. Ah, ce serait pas celui-là? Non. Je cherche un. On va essayer de vous donner une idée. Ah, c'est celui-là. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Mais tu vois, c'est chiant, quoi. Alors, donc lui, je l'accepte. Il travaille dans les matériaux biosourcés et le développement durable. Alors... qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il fait allusion à mon conjoint alors que ça ne regarde pas. Je veux dire, il s'adresse à moi, il s'adresse à moi. Il ne s'adresse pas à moi en parlant de ce que mon conjoint a dit. Je ne comprends pas ce que vous recherchez. Hop là, voilà.
Un graphique.
Et il reparle de lui de nouveau. Je cherche juste à éveiller votre esprit critique que vous aviez avant. Hein? L'effet du vaccin totalement nul, et alors ici, donc il voit ça, alors ça, c'est reparti quoi, un autre
jour. Vous lui répondez à chaque fois?
Bah, au début, je réponds, et vous avez vu le post quoi, Covid rationnel, là j'ai pas répondu, voilà, il me dit, vous m'avez bloqué, là il me dit... Oh! Ah oui. Ce n'est par contre pas correct de m'avoir bloqué. Je n'ai pas du tout bloqué. Et alors? Bonjour, je ne vous ai pas bloqué. Sur quelle plateforme ne pouvez-vous pas répondre? Et alors là, je réponds encore aimablement. Je prends le temps de vous répondre. Blablabla. Là, je suis encore poli. Ah voilà, les fake news, finalement, là je dis les fake news sont dans vos publications, parce que là il dit, ah voilà, vous allez rire de moi, mais je pense que vous risquez très bientôt des ennuis en justice au regard des fausses informations que vous écrivez et partagez. Voilà, on y est. Donc je mets, les fake news sont dans vos publications et vos lectures biaisées des chiffres, LinkedIn est un réseau professionnel, je vous demande d'en rester là. Ok, un dernier article. Quand on dit qu'on en reste là, on en reste là. Je dis, allez en justice, c'est le monde à l'envers. Ah, il répond, il publie. Quand je lui dis d'en rester là, il n'en a rien à cirer. Hein.
Ouais.
Voilà, ça, c'est du harcèlement.
Oui. Mais disons que c'est le seul qui a osé faire ça à visage découvert, quoi. Tous les autres se cachaient derrière un pseudo.
Oui, là, sur LinkedIn, c'est avec son nom. Sinon, non, ça va encore, quoi. Ça va encore.
D'accord. Comment est-ce que ces affaires de harcèlement impactent votre pratique journalistique?
Parfois, je dois me forcer de ne pas m'inhiber le partage d'une publication liée à la thématique qui va déclencher parce que je me dis, allez, je sais ce que ça va, je vais aller voir après, j'aurai des trucs. Est-ce que je le partage pas? Non. Enfin, je peux pas commencer à retenir des trucs. Si je trouve ça intéressant, je partage.
Donc vous considérez qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça fait partie de votre travail de journaliste?
Oui, bien sûr, je considère ça. Ouais. Parce que c'est aussi une vitrine de ce qu'on fait, de la rigueur du travail des collègues. Quand on voit des choses qui sont intéressantes, de les partager, ça, ça fait partie du boulot. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Il y en a qui ne sont pas dessus. Mais... Mmh. Ouais. Donc, je dois me retenir l'évitement. Je dois éviter l'évitement.
Oui.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Et du coup, quelle a été la réaction de la RTBF?
Bah, très, très bonne. Donc, la RTBF applique maintenant une politique de tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement en ligne.
C'était pas le cas avant?
Je sais pas quand ils ont vraiment commencé à utiliser le vocable, mais comme c'est monté en puissance avec le Covid, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Ici, la plainte contre Twitter qui a été prise en charge. RTBF était vraiment derrière. Et il y a aussi un service auquel on peut envoyer les menaces et mails haineux qu'on reçoit et qui peut offrir un soutien. Mais moi, je trouve plus efficace que le soutien, c'est l'attaque, en fait. Parce qu'un soutien, c'est comme si on était victime. Je sais pas, moi, je le ressens comme j'ai un problème. Je souffre de ça, mais c'est moi le problème, quelque part.
Mmh.
C'est pas vraiment ça, mais... Et je trouve ça plus salvateur de dire... Cette personne est un problème. Et d'espérer, évidemment, que ça soit suivi au niveau judiciaire.
Mmh. Donc, vous êtes plutôt satisfaite du support de la RTB, quoi.
Vraiment.
Ok. Je fais un peu le tour de mes questions pour voir si j'ai tout dit, mais je pense qu'on a déjà abordé pas mal de trucs. Peut-être la modération sur Twitter. Est-ce qu'il y a eu de la modération de la part de Twitter?
C'est pas efficace. Je pense qu'il fonctionne aussi avec des intelligences artificielles qui reconnaissent pas les expressions, en particulier en français. Retourne dans ta cuisine, par exemple, c'était pas un problème.
Ouais.
J'ai quand même répondu que le sexisme était une infraction, en tout cas chez nous. La photo du gars, du journaliste pendu, c'était pas un problème. Donc, Twitter n'est pas encore assez réactif et efficace. Ça met des plombes avant qu'ils suspendent des comptes. Et puis, la personne peut rouvrir un compte sans un autre nom, et puis voilà.
Ouais. Je sais pas. Le blocage IP.
Je suis pas sûr qu'il bloque l'IP. Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est possible de rouvrir. I don't know.
Mmh. D'accord. Vous n'avez rien changé de votre méthode de travail, en tout cas, la façon de... Outre le partage, est-ce que ça vous a même limite encouragé à aller encore plus loin dans la recherche?
Bah oui, dans la rigueur, et oui, c'est vrai. Encore plus vigilante, quoi. Ouais. Et alors aussi, bon, parfois des gens font des remarques comme quoi il y a une erreur, une approximation, une faute. Ça aussi, ça fait partie du retour et du service après-vente que j'assure. Mais le problème, c'est que comme tout le monde n'est pas tout le temps dessus, et on n'est pas nombreux à être hyper réactifs avec un grand réseau sur Twitter. Moi, je reçois le service après-vente de tout, quoi. De toute la RTB. Et dès qu'il y a un truc qui concerne la RTB, c'est moi qu'on tag.
Et pourquoi? Vous êtes très médiatisé?
Parce qu'ils savent que je réagis et que je fais suivre. Mais moi, je ne suis pas le SAV de l'entreprise, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et est-ce que vous pensez que si on s'attaque à vous, c'est lié au fait que vous soyez assez présente en télé, notamment?
Là, je ne suis quasiment plus pour l'instant. Je peux l'être de temps en temps pour des trucs. L'année dernière, il y avait tout le temps les chroniques du vendredi. Le fait qu'on m'ait vu beaucoup avant, quand je faisais de la politique, ouais, peut-être. Et puis, ils ont eu cet étonnement aussi de « Tiens, elle a fait la politique, elle est en sciences, qu'est-ce qu'elle y connaît Comment est-ce qu'elle, tout à coup... Mais ça, ce sont des... Je peux comprendre qu'on se pose cette question, bien sûr, mais... Pas avoir d'a priori sur. En tout cas, pas sur ma capacité de travail.